Vous écoutez, on lit pour vous.
Montréal de tous les dangers pour les femmes en situation de handicap. Un texte de Caroline Monti, paru le 3 février 2025 dans Le Devoir. Circuler à Montréal est dangereux pour les personnes handicapées. Un nouveau rapport de la table des groupes de femmes de Montréal met en lumière le sentiment d'insécurité permanent qu'éprouvent les femmes en situation de handicap lorsqu'elles sortent de chez elles. « Je ne me sens jamais en sécurité dans l'espace public », résume une participante de la recherche Action embarquée avec nous. Chaque sortie devient rapidement un parcours du combattant pour les femmes en situation de handicap. Il faut braver les trottoirs et les ruelles glacées, ainsi que l'absence de rampe d'accès, les comportements dangereux des automobilistes, les chantiers et les aménagements urbains mal conçus, sans parler du harcèlement de rue. Selon les témoignages recueillis dans le rapport, les transports collectifs réguliers sont souvent considérés comme non sécuritaires et inaccessibles. Laurence Parent a beau siéger comme vice-présidente au conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, STM, elle le reconnaît. C'est l'installation d'ascenseurs dans les stations de métro de Montréal qui est le dossier le plus urgent en matière de mobilité. À Montréal, oui, il y a un retard, c'est sûr, dit la conseillère d'arrondissement du plateau Mont-Royal qui circule elle-même en fauteuil roulant. Et en plus, Montréal a des défis divers. Notre ennemi numéro un à nous, ce sont les marches. La mise en accessibilité du métro est notre plus gros défi, poursuit-elle. En comparaison, les États-Unis appliquent depuis 1990 une loi sur l'accessibilité qui a un impact assez concret sur la société, les infrastructures et tout ça. Aux États-Unis, en fauteuil roulant, j'ai beaucoup plus de facilité à circuler. Un métro souvent inaccessible. Présentement, 29 des 68 stations de métro de Montréal sont munies d'un ascenseur. C'est moins de la moitié. Un nouvel ascenseur au métro Atwater devra être accessible dans les prochaines semaines. La STM prévoit en ouvrir deux autres dans les prochaines années. Un à Berry-UQAM, vers la ligne jaune, et un à la station Édouard-Monty. Après, plus rien, faute de budget. Certaines stations ont été rénovées sans qu'on décide d'y installer des ascenseurs. C'est le cas de la station Beaubien ou de la station Saint-Michel, par exemple. La plupart des stations n'ont pas été conçues pour recevoir des ascenseurs, explique Amélie Régis, conseillère corporative à la STM. Leur installation peut nécessiter de gros travaux ou encore des agrandissements. À la station Beaubien, malgré les récents travaux, le terrain exigu faisait obstacle à l'installation d'un ascenseur. À la station Saint-Michel, le manque de financement n'a pas permis l'installation d'un ascenseur malgré d'importants travaux. Ce manque a fait l'objet d'une pétition du Comité de mobilisation citoyenne Saint-Michel-François Perrault en mars dernier. La population de Saint-Michel utilise davantage les transports en commun, avec un taux de 41,4% comparé à la moyenne de l'île de Montréal, qui est de 34,5%. Dans ce quartier, qui est l'un des plus défavorisés de Montréal, la disponibilité de transports en commun accessibles est une nécessité pour les résidents qui possèdent moins de voitures que dans d'autres quartiers, lisait-on dans cette pétition. Le tiers, 33% des personnes en situation de handicap ont un revenu annuel de moins de 15 000 $, selon les données de l'Office des personnes handicapées du Québec. 33%. Il s'agit de la proportion des personnes en situation de handicap qui vivent avec un revenu de moins de 15 000 $. Un transport adapté rigide. C'est le transport adapté assurée par la STM, qui remédie aux problèmes de transport en commun et assure des déplacements précieux à plusieurs, particulièrement en hiver. Mais il n'est pas sans faille non plus. Il faut le réserver 24 heures à l'avance, ce qui exclut tout déplacement d'urgence, notamment dans les cas de violence conjugale. Malgré cela, les annulations tardives sont notées au dossier du client. Lorsque des annulations se répètent, les clients reçoivent un avertissement par la poste. Cette lettre crée un choc, puisqu'ils craignent alors de perdre ce service qui leur est essentiel, notamment pour se déplacer durant l'hiver, explique-t-on dans « Embarquer avec nous ». Le nombre de personnes autorisées à accompagner la clientèle du transport adapté est limité selon l'évaluation de la gravité du handicap, ce qui pose problème aux gens qui doivent circuler en famille. C'est comme si les sociétés de transport ne pouvaient pas concevoir qu'une personne handicapée puisse avoir un enfant, selon Célia, aveugle cité dans le rapport. Mais le monde a évolué. Les gens qui ont des limitations ont le droit d'être parents. Alors, il faut que quelque chose soit fait pour nous accommoder, plaide-t-elle. On est des gens comme vous, qui veulent faire partie de la solution, précise Pascal Thérien, qui vit avec des difficultés motrices depuis quelques années. Les retards sont courants et le chauffeur doit souvent aller chercher d'autres clients sans avertissement, ce qui rend l'heure d'arrivée aléatoire. Les clientèles sont mixtes et des déficients intellectuels peuvent harceler ou gêner des déficients moteurs, par exemple. Les clients doivent se limiter à deux sacs et ne peuvent généralement pas l'utiliser pour faire l'épicerie. J'ai longtemps pris le transport adapté et tel qu'il existe, il nécessite beaucoup de planification. C'est sûr qu'il y a des défis, dit Laurence Parent, vice-présidente du conseil d'administration de la STM. Toutes les situations problématiques sont prises au sérieux. C'est pour ça qu'on veut rencontrer la table des groupes de femmes et voir ce qu'on peut faire pour rendre le transport adapté plus humain. Il y a des enjeux plus spécifiques aux femmes dont on parlait moins avant. Mais je constate aussi que la formation des chauffeurs en général s'est beaucoup améliorée. 60%. C'est la proportion des utilisatrices du transport adapté qui vivent avec une déficience motrice. Une majorité d'entre elles sont âgées de 75 ans et plus. Au-delà du transport, le paysage urbain n'est souvent pas conçu pour accueillir les personnes en situation de handicap. Yves-Marie Lefebvre, aveugle, note que la place des Fleurs de Macadam dans le plateau Mont-Royal a été littéralement inondée de prix depuis sa création. Mais elle n'est tout simplement pas accessible aux personnes handicapées parce que l'entrée ne s'y présente pas en ligne droite. Aux intersections des rues, le temps de traverse des piétons est jugé trop rapide et il demeure le même en toute saison. Il est parfois de 15 secondes, parfois de 25, précise Pascal Thérien, qui a aussi participé à la recherche-action. Dans la rue, c'est le chaos. Les automobilistes anticipent mal le temps pour traverser, ne respectent pas les limites de vitesse et arrivent très vite à une intersection, coupent le passage à une personne qui traverse, passent près d'elle lors du débarquement de l'autobus ou du transport adapté, taxi, voiture personnelle ou partage, et ne s'arrête pas aux traverses piétonnes, résume Evelyne Claire, qui se déplace en fauteuil motorisé et estime que les automobilistes souffrent d'un handicap d'ignorance. Ce sont d'ailleurs les automobilistes qui sont perçus comme les plus insécurisants, suivis des cyclistes, puis de la police et des piétons, par les répondantes de la recherche action. C'était Montréal de tous les dangers pour les femmes en situation de handicap, un texte de Caroline Monpty, paru le 3 février 2025 dans Le Devoir.
Des citoyens mettent Montréal en demeure pour stopper un projet. Un texte de Henri Ouellet-Vézina, paru le 5 février 2025 dans La Presse. Des résidents du quartier des Gares dans Ville-Marie mettent en demeure la Ville de Montréal pour faire stopper un projet de 15 logements destinés à des personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Selon eux, cela ferait porter sur leurs épaules, citation, « un poids disproportionné de la problématique de l'itinérance ». Fin de citation. Citation, « une concentration démesurée de services aux personnes itinérantes est présente dans le quartier ». Ellipse, entraînant ici une perte du sentiment de sécurité qui sera nécessairement augmentée par l'ajout d'une clientèle souffrant de problèmes de santé mentale. Fin de citation, lit-on dans le document transmis mercredi à la Ville par le cabinet d'avocats de Grandpré Chate. Le terrain en question, où se trouve un stationnement extérieur, est situé sur la rue de Versailles, non loin des locaux de Mission Bon Accueil. Montréal veut y construire 15 logements sur 3 étages et surtout, citation, loger des personnes vulnérables dans un contexte où l'accès à des logements est difficile. C'est la Corporation Maison Lucien Lallier, un organisme à but non lucratif qui offre des logements permanents en santé mentale, qui mène le projet. L'organisme Bâtir son quartier, spécialisé en économie sociale et en habitation, est aussi impliqué. Des premiers visuels du projet ont déjà été rendus publics, mais aucune pelletée de terre n'a encore eu lieu, d'autres approbations devant d'abord être obtenues. Atteinte à la quiétude. Le sujet n'est pas sans rappeler que les enjeux de cohabitation avec l'itinérance se multiplient dans la métropole depuis quelques mois déjà. Selon les résidents, les impacts du projet, citation, porteront incontestablement atteinte à la quiétude du voisinage. Fin de citation. Ils soutiennent que de « faire abstraction de la vocation familiale de ce quartier résidentiel est clairement déraisonnable ». Citation. Au contraire, faire supporter sur une partie des résidents un poids disproportionné de la problématique de l'itinérance est contraire à l'objet du règlement d'urbanisme de l'arrondissement. Fin de citation. Font-ils valoir par l'entremise de leurs avocats. Plusieurs de ces résidents se sont rendus récemment dans une séance du conseil d'arrondissement de Ville-Marie pour faire valoir leurs inquiétudes. Un citoyen avait notamment demandé si d'autres lieux avaient été considérés par la Ville pour minimiser les impacts sur la population locale. D'autres craignaient de perdre l'usage du stationnement situé sur le terrain projeté. L'endroit est réservé aux résidents depuis la fermeture de la ruelle entre les rues Lusignan et Versailles il y a 5 décennies. Au comité exécutif montréalais, le responsable de l'itinérance, Robert Baudry, répond que, citation, « la crise du logement frappe fort à Montréal et notre priorité, c'est d'accélérer la construction ». Fin de citation. Il soutient qu'une rencontre a eu lieu avec les citoyens, à l'issue de laquelle, citation, « l'arrondissement s'est engagé à mettre en place des solutions pour soutenir la qualité de vie et la quiétude du quartier pour tous les résidents », incluant ceux qui viendront s'y installer. L'arrondissement a aussi confirmé qu'il relocalisera les places de stationnement avec vignettes perdues en raison du développement du projet. Fin de citation, note M. Baudry. Dans la mise en demeure, les citoyens, eux, s'inquiètent que le ministère de la Santé, citation, n'a donné aucune confirmation de la disponibilité des ressources nécessaires pour soutenir les locataires de cette nouvelle résidence de logements sociaux. Fin de citation. Ils craignent ainsi de devoir, citation, gérer encore plus les crises des locataires, comme c'est actuellement le cas avec les itinérants fréquentant le quartier. Fin de citation. C'était Des citoyens mettent Montréal en demeure pour stopper un projet, un texte de Henri Ouellette Vézina, paru le 5 février 2025 dans La Presse.
Les décès liés à l'alcool ont augmenté de 18 % pendant la pandémie. Un texte d'Anna Alberga paru le 4 février 2025 dans Le Devoir. Les décès liés à l'alcool ont augmenté d'environ 18 % pendant la pandémie, selon une étude qui souligne les effets néfastes de rendre l'alcool plus accessible à une époque de vulnérabilité accrue. Les chercheurs de l'Agence de la santé publique du Canada ont comparé les décès et les hospitalisations liés à l'alcool avant et après la pandémie, constatant 1600 décès de plus que prévu. Ils ont également remarqué que les hospitalisations ont bondi de 8%, avec une augmentation encore plus élevée d'environ 14% en 2020 et 2021. Cela s'est produit alors que les ventes au détail d'alcool ont connu la plus forte augmentation depuis une décennie, malgré l'absence de touristes au Canada. L'étude indique que les provinces qui désignent l'alcool comme « essentiel » et autorisent les magasins d'alcool à rester ouverts pendant les confinements, tout en facilitant l'accès à l'alcool grâce à la livraison à domicile, pourraient avoir affaibli les messages de santé publique sur ces effets néfastes. Selon le Dr. Yi Puxi, auteur principal de l'étude, ces résultats confirment les effets néfastes de la consommation excessive d'alcool, qui peuvent être attribués à l'augmentation du stress, à l'ennui et à la détérioration de la santé mentale pendant la pandémie. Des groupes plus vulnérables. L'étude montre que certains groupes démographiques ont subi plus de dommages liés à l'alcool que d'autres, notamment les femmes, les jeunes adultes et les personnes à faible revenu, ce qui révèle des disparités préexistantes dans ces groupes. Leur conclusion, publiée récemment dans le journal de l'Association médicale canadienne, ont examiné les données entre 2016 et 2022 et n'ont inclus que les décès qui pouvaient être entièrement attribués à l'alcool, comme les maladies hépatiques liées à l'alcool, qui ont représenté près de 10 800 décès au total. Ils ont observé que les hospitalisations liées à la consommation d'alcool ont augmenté 3 fois plus chez les femmes que chez les hommes, 15,6% contre 5,7%, ce qui pourrait être attribué à un stress plus élevé, à la solitude, à l'exposition à la violence conjugale et à la perte d'emploi par rapport aux hommes, selon le Dr. Shi. L'étude a également signalé une augmentation de 55% de la mortalité chez les personnes âgées de 25 à 44 ans, une hausse très inquiétante qui suggère que les jeunes adultes avaient des problèmes d'alcool avant la pandémie et que la situation n'a fait qu'empirer. Une consommation d'alcool plus élevée a été enregistrée dans le groupe aux revenus les plus élevés, mais les taux de mortalité pour ce groupe étaient les plus bas. Le Dr. Daniel Miran, titulaire de la chaire de recherche du Canada au département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa, affirme que cela met en évidence le fait que les personnes à faible revenu ont tendance à subir plus de dommages et à courir plus de risques de maladies chroniques. Il est intéressant de constater que les 20% des quartiers les plus riches connaissent près de la moitié de l'augmentation de la mortalité que connaissent les groupes à plus faible revenu et les quartiers à plus faible revenu. Je pense que les expériences de la pandémie ont été très différentes pour les personnes en fonction de leur statut socio-économique, a-t-il déclaré. Des différences selon les provinces. Le Dr. Shi avance que la prévalence plus faible de maladies préexistantes liées à l'alcool chez les personnes à revenus élevés aurait pu atténuer les effets néfastes de la consommation accrue d'alcool. Le rapport montre également des différences régionales. Les Prairies et la Colombie-Britannique enregistrent 3 fois plus de décès liés à l'alcool qu'en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, et 6 à 7 fois plus de décès qu'au Québec. Les chercheurs estiment que ces différences pourraient être liées aux restrictions de santé publique, aux répercussions économiques et à la capacité des soins de santé pendant la pandémie. Par exemple, ils affirment que les vagues majeures de COVID-19 en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan ont probablement retardé les soins pour les maladies liées à l'alcool. En revanche, le faible taux d'infection dans la bulle atlantique pourrait s'être traduit par une plus grande capacité des soins de santé et une réduction des dommages. Une augmentation des décès liés à l'alcool a également été constatée aux États-Unis, où elle a bondi de 29% et dans 19 pays européens où elle a augmenté de 18%. L'étude souligne que la hausse des décès dus à l'alcool a diminué après 2022, à mesure que les vaccins et les traitements contre la COVID-19 sont devenus disponibles. Mais le docteur Mirand affirme que la situation de base pré-pandémique est toujours mauvaise. Avant la pandémie, la consommation d'alcool était déjà l'une des principales causes de mortalité au Canada. Le problème est que les politiques de contrôle de l'alcool ne sont pas considérées comme une victoire politique, explique le docteur Mirand. Mais l'expansion des ventes d'alcool dans les dépanneurs, la baisse du prix de l'alcool et l'octroi d'allègements fiscaux sont des points de popularité faciles pour les politiciens. De nombreuses provinces ont permis aux magasins d'alcool de commencer à faire des livraisons d'alcool à domicile pendant la pandémie et le font toujours. Il existe vraiment un lobby de l'alcool très influent et puissant qui rencontre régulièrement les décideurs et les politiciens qui ne sont pas intéressés par des politiques qui réduiront la vente d'alcool parce que c'est ainsi que leurs entreprises gagnent de l'argent, explique-t-il. Le Dr Tim Nemi, directeur de l'Institut canadien de recherche sur la toxicomanie à l'Université de Victoria, affirme que le recul des politiques sur l'alcool qui a eu lieu pendant cette période et qui a persisté, comme la mise à disposition de l'alcool sur les applications de livraison, fera partie des impacts négatifs durables de la pandémie. Plutôt que d'entraîner un renforcement des politiques sur l'alcool pendant une période où les gens étaient encore plus vulnérables que d'habitude, cela a conduit à une érosion de ces politiques, et cela s'est poursuivi, a-t-il précisé. Le Dr Nemi espère que cette étude suscitera une réflexion chez les décideurs politiques. C'était « Les décès liés à l'alcool ont augmenté de 18% pendant la pandémie », un texte d'Anna Alberga paru le 4 février 2025 dans Le Devoir.
De Flin Flon à la scène torontoise, le parcours inspirant d'un handicapé gay. Un texte de Radio-Canada paru le 14 octobre 2024 dans Ici Manitoba. La comédie musicale de Flin Flon Cowboy, qui s'inspire de la vie de son créateur, Ken Arover, un homme homosexuel et handicapé du nord du Manitoba, sera présentée au Théâtre Passe-Muraille du 19 octobre au 2 novembre. Cette œuvre explore des thèmes d'identité et d'amour avec une touche authentique du nord canadien. Ken Arover est originaire de Flin Flon, une communauté manitobaine d'un peu plus de 5000 habitants, située à environ 630 km au nord-ouest de Winnipeg. Rencontré un jour durant ses répétitions, cet homme à cheveux longs, dans un fauteuil roulant motorisé, ne montrait aucun signe visible d'enthousiasme. Âgé de 63 ans, Ken Arover est atteint d'arthrogrypose congénitale multiple. Il a utilisé un fauteuil roulant toute sa vie et a dû faire face à de nombreux défis, passant ses 5 premières années principalement à l'hôpital. Un employé m'a dit que ma mère m'avait mis dans une poubelle. Après cela, je suis devenu pupille de la province du Manitoba à partir de l'âge de 5 ans environ. Une citation de Ken Arover, co-créateur de la comédie musicale de Flin Flon Cowboy. Une vie à poursuivre son rêve. Durant son enfance, Ken Arover a aussi vécu à Winnipeg dans 5 familles d'accueil jusqu'à ses 18 ans. Ses expériences, racontées dans la pièce, vont de l'abus à l'autonomisation. Vers l'âge de 19 ou 20 ans, l'assistante sociale lui a posé un ultimatum. C'était « soit j'entrais dans une institution, soit je me débrouillais tout seul ». Je lui ai dit « non, je n'irai pas dans une institution ». Cette décision a marqué le début d'une série de hauts et de bas pour M. Arover. Après avoir déménagé à Vancouver en 1986, puis à Waterloo en 1987 pour poursuivre ses études, il a finalement affronté un aspect refoulé de sa personnalité. « Je savais, depuis l'âge de 10 ans, que j'aimais les garçons. Mais je n'ai fait ma sortie du placard qu'en 1997-1998, à 37 ans, dit-il. Ne parvenant pas à s'intégrer dans la petite communauté gay de Waterloo, il a quitté cette ville en 1999 pour Toronto, où il a commencé à réaliser ses rêves, notamment celui de devenir acteur en suivant le programme d'art dramatique de la Toronto Film School. J'ai commencé à l'école d'art dramatique en 2011 et j'ai découvert que la plupart des professeurs avaient parié que je n'irais pas jusqu'au bout. Pourtant, j'ai obtenu mon diplôme en 2013 avec mention. Une citation de Ken Arover, co-créateur de la comédie musicale de Fin Flon Cowboy. Après avoir joué dans quelques courts-métrages, il a décidé de se faire une place sur scène. Tout a vraiment commencé lorsqu'il a pris contact avec Marjorie Chan, alors directrice artistique du Cahoots Theatre, aujourd'hui directrice artistique du Théâtre Passe-Muraille. Un jour, j'ai eu le courage d'aller au Cahoots Theatre pour me présenter et j'ai dit « Hey, je suis un nouveau comédien et je ne connais aucun metteur en scène. Pourriez-vous m'aider à en trouver un ?» En 2023, il jouait dans une pièce intitulée « Access Me » qui le mettait en scène avec deux autres homosexuels handicapés. C'est en travaillant sur ce spectacle que M. Arover a rencontré Debbie Patterson, directrice artistique du Sick and Twisted Theatre, basé à Winnipeg, et artiste local handicapé. Ken est un homme fascinant, a déclaré Debbie Patterson, qui a participé à la création de The Flin Flon Cowboy. Il a dû se battre avec acharnement pour mener une vie indépendante. Il est étonnant qu'il soit encore en vie, compte tenu des difficultés qu'il a rencontrées et de la façon dont il a commencé sa vie. Depuis que j'ai commencé à jouer la comédie, j'ai voulu mettre mon histoire en musique, explique Ken Arover. Il a passé environ 8 ans à travailler sur cette pièce, et maintenant qu'elle est sur le point d'être mise en scène, j'en suis très heureux, a-t-il déclaré. On espère que la pièce aura un avenir au-delà de sa présentation à Toronto, y compris à Winnipeg, conclut Ken Arover. C'était de Flin Flon à la scène torontoise, le parcours inspirant d'un handicapé gay. Un texte de Radio-Canada, paru le 14 octobre 2024 dans Ici Manitoba.